Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
20h10, le débat numérique et politique. Le débat de ce soir est consacré à Facebook avec, après le scandale Cambridge Analytica et l'audition marathon de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain. Et nous en parlons ce soir avec Romain Pigenel, ancien conseiller du président François Hollande et cofondateur chez Futur.io. Et à vos côtés ce soir, puisqu'il faut expliquer, être un peu pédagogue, Emmanuel Paquet, journaliste à l'Express, qui est resté avec nous. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il y a quelques semaines, le scandale Cambridge Analytica a été éclaté autour de Facebook, le réseau social aux 2,2 milliards d'utilisateurs. Pour résumer, Cambridge Analytica a récupéré les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook sous couvert d'un travail de recherche universitaire et académique. Ces données auraient ensuite servi à cibler des utilisateurs au bénéfice de la campagne électorale de Donald Trump, notamment, ou encore de la campagne du Brexit. Et cette semaine, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a été entendu par le Congrès américain à ce sujet, une audience rare que l'on a suivie en direct comme une véritable série TV. Alors Emmanuel Paquet, pour commencer avec vous, est-ce qu'on pourrait revenir sur ces deux événements tout récents ?
Oui, alors il faut savoir que c'est probablement la plus grande crise aujourd'hui qui affecte le réseau social. Aujourd'hui, c'est quand même 2 milliards de personnes qui se connectent sur cette plateforme, 87 millions donc effectivement de profils dont les données ont été aspirées sans le consentement des utilisateurs par Cambridge Analytica. Et sur ces 87 millions, il faut savoir qu'il y a quand même 2,7 millions d'Européens, il y a 1 million à peu près de Britanniques, 211 000 Français, 300 000 Allemands. Donc ça dépasse très largement le cadre américain. Donc là, on a eu une audition devant le Congrès, mais les autorités de régulation européennes viennent de demander également à auditionner Mark Zuckerberg sur les mêmes questions.
Une première réaction peut-être, Romain Pigenel ?
Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a enfin le problème qui est mis sur la table. Et on commence à poser politiquement le sujet du poids de ces plateformes. Je dis bien ces plateformes à dessein, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne uniquement le procès de Facebook. On a vu maintenant, c'est devenu un peu le bouc émissaire facile. Alors avec des campagnes, d'ailleurs, on pourra parler de l'efficacité des lettres Facebook, des gens comme Elon Musk ou de personnes qui disent on va effacer le compte Facebook, on va partir. Donc ça, il y a effectivement qui n'est pas un petit problème, mais c'est le rôle de Facebook. Mais après, il y a finalement le poids qu'on a laissé finalement avoir à ces plateformes. Et elles ont joué leur jeu. Moi, je ne reproche pas d'avoir maximisé leurs profits, avec pendant très longtemps une espèce de légende dorée qu'on nous a racontée, où il était de bon ton de dire, voilà, elle crée de nouvelles façons de communiquer, il y a de nouvelles façons de cibler les électeurs, et c'est très bien. Et à ce titre, c'est quand même amusant, c'est que, même si évidemment les situations ne sont pas comparables, quand on regarde la dernière campagne de Barack Obama, en 2012, et quand on reprend les articles de l'époque, qui étaient totalement dithyrambiques sur la qualité de la campagne numérique qu'il avait faite, il racontait aussi, et on l'a appris aujourd'hui avec des anciens de son équipe, alors il faut vérifier évidemment la véracité de tout ça, mais qui ont donné des informations a posteriori, qu'ils avaient aussi fait usage justement d'énormément de données captées via Facebook. Alors, sans rentrer dans le détail, apparemment de manière moins illégale ou moins litigieuse que l'est le leak de Facebook de Cambridge Analytica, mais on voit bien qu'à ce moment-là, ça dérangeait finalement pas grand monde, et on avait toute une légende dorée qui nous était racontée, qui était montrée aussi comme exemple. Moi, je m'en souviens, quand on dirigeait des équipes de campagne en France, on disait, regardez l'usage exceptionnellement intelligent qui a été fait de la data, des data disponibles sur Facebook par Barack Obama. Donc, pendant longtemps, il y a eu, voilà, je pense, un discours qui était excessivement angélique. Alors maintenant, on est peut-être dans un discours qui, parfois, notamment sur Facebook, excessivement critique et qui oublie de regarder le contexte plus général. Mais au moins, je trouve que le débat est ouvert. On voit aussi, notamment en France, que ça va de pair avec une meilleure, culture générale numérique d'une nouvelle génération d'élus qui saisissent ces problèmes. Et même s'il reste beaucoup de choses à faire, on peut enfin remettre sur la table d'un débat démocratique informé ces sujets de société qui en sont, évidemment, quand on voit le poids économique et la quantité de données qui sont traitées par ces géants numériques. Facebook en premier lieu, mais pas que Facebook.
Alors le sujet, au fond, ce soir, c'est l'impuissance politique face à Facebook. Au-delà de ces deux questions que nous avons évoquées, que peuvent faire les politiques, les hommes politiques et d'ailleurs aussi les hommes politiques européens face à Facebook? Vous avez évoqué, Emmanuel Paquet, le fait que Mark Zuckerberg a été auditionné aux États-Unis, qu'on pourrait aussi l'auditionner en Europe. On aurait pu imaginer une convocation par Bruxelles, puisque Cambridge Analytica, comme vous l'avez rappelé, a touché 2,7 millions d'utilisateurs en Europe.
Oui, et pour l'instant, c'est vrai que Facebook se protège en disant que le seul statut qu'il aurait reconnu, c'est un statut d'hébergeur, en tout cas en Europe. Donc il y a même eu des questions de certains élus leur disant « Mais est-ce que vous diffusez des matchs de baseball, par exemple ? Est-ce que vous êtes un média ?» La réponse de Mark Zuckerberg a été de dire non. Après, on lui a posé la question, mais vous vendez aussi du crédit à la consommation, vous voulez devenir une banque, est-ce que vous êtes une banque en tant que telle? Il a dit non. Donc en fait, le problème, c'est qu'il joue sur un côté de vide juridique qui fait qu'il n'est ni hébergeur, ni éditeur, entre guillemets. Hein. Donc les fake news qui ont pu circuler pendant la campagne présidentielle française ou également américaine, ils n'en sont pas responsables a priori, mais a posteriori. C'est-à-dire, si on voit une erreur, si on voit l'apologie du terrorisme sur certaines pages, on le signale. Et par contre, Facebook a, dans la loi, doit réagir le plus promptement possible pour enlever ces contenus-là. Mais jamais a priori, toujours a posteriori. Donc la question est celle du statut. C'est un serpent de mer qui se repose régulièrement, mais pas seulement à Facebook. C'est une question qui se pose à YouTube également, puisqu'il y a des vidéos d'apologie du terrorisme aussi qui circulent. Ça déborde très largement même tout ce qui touche aux campagnes présidentielles. Ça touche également la vente de drogue, puisqu'une question a été posée là-dessus. Aujourd'hui, comme Facebook a lancé Facebook Marketplace, qui permet de vendre sur Facebook tout ce qu'on veut, et ben aujourd'hui on y trouve de la contrebande de cigarettes, on y vend de la vente de médicaments illégaux. Donc aujourd'hui, alors que ce n'est pas un site de commerce, donc ce n'est rien, et en même temps Facebook fait tout.
Romain Pichenel, que peuvent les hommes politiques face à Facebook et plus globalement face à ces questions de régulation des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon?
Déjà, ils peuvent commencer par se dire qu'ils peuvent faire quelque chose. Et ça, je crois que c'est important parce que, comme je le disais, pendant longtemps, il y a eu tout un ensemble de causes qui étaient d'ailleurs une forme parfois de méconnaissance, une forme aussi de révérence excessive. Parce que c'est vrai qu'on a le souvenir parfois, moi je repense à l'accord Google sur la presse, et j'en parle d'autant plus librement que c'était ma majorité qui était au pouvoir à ce moment-là, où on avait l'impression que finalement Google arrivait et traitait d'égal à égal avec des États. Il y a eu ce cas aussi, qui est un peu anecdotique, mais révélateur, de la nomination l'an dernier par le Danemark, par exemple, du premier ambassadeur d'un pays auprès des GAFA. C'est quelqu'un qui s'appelle Kasper Klinge, j'espère ne pas écorcher l'accent danois.
Et ça, vous n'y êtes pas favorable?
Non, parce que d'abord, là, sans rentrer dans des débats techniques très très précis.
C'est pas un ambassadeur au numérique, mais dédié à des entreprises.
C'est quelque chose de complètement fou, d'autant plus que quand on lit les interviews de cette personne, alors qu'elle a l'intérêt d'être très cohérente, très transparente, elle a un discours extrêmement étonnant pour prendre en un État, puisqu'elle dit, au fond, aujourd'hui, les GAFA ont des revenus qui sont supérieurs au PIB d'un pays comme la France. Ils ont une emprise sur nos vies qui est supérieure à celle de bien des pays, des organisations internationales, sans compter justement d'un pays petit comme le Danemark. Donc, il faut admettre que nous sommes de cette manière inférieure. Il faut négocier avec eux. Et c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses interviews de cette personne qui sont intéressantes parce qu'elle va les mettre les pieds dans le plat. Elle pose ce sujet-là. Moi, je crois, en refaisant simplement, j'irais un peu de philosophie politique, voire de bon sens, que c'est une absurdité, une voie dangereuse, parce qu'il y a une question de souveraineté. Les hommes politiques, les services publics, etc., on sait à qui ils doivent justement leur autorité, on sait au nom de qui ils peuvent exercer la loi, et on voit bien inversement que ces géants numériques, qui d'un côté prétendent effectivement ne pas faire de politique, qui en même temps portent beaucoup de valeurs normatives, parce qu'on voit que ce soit Facebook, sur Twitter, ils passent leur temps finalement à sécréter l'idéologie, à sécréter des normes. C'est pas pour rien que Google avait comme slogan « Don't be evil », donc on voit que c'est des agents normatifs, éthiques, et qui pour autant ne tirent pas cette légitimité d'aucune, je dirais, aucun vote populaire, aucun type de contrôle. Donc je pense qu'il faut d'abord combattre cette idée effectivement et revérifier tous les secteurs de la vie publique, et notamment le débat public, les échanges d'idées, on a parlé des fake news, où de fait, ces géants occupent si ce n'est des missions de service public, et je pense que parfois la question se pose, est-ce qu'aujourd'hui Facebook, d'un certain point de vue, n'est pas une forme de fait de service public de la mise en relation, de l'amitié? Ben, si de fait on constate qu'ils ont ce type de pouvoir et de puissance, comme le disait un certain Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Un Spider-Man.
Voilà, absolument, le proverbe de Spider-Man, il faut poser ce sujet-là sur la table.
Le premier Spider-Man, c'est il y a très longtemps. Voilà, depuis, il n'a plus ses grands pouvoirs ni ses grandes responsabilités.
Avant les deux reboots, voilà, et se dire fondamentalement à partir de quel moment un type de pouvoir excessif n'implique pas de poser la question de la souveraineté et éventuellement, pourquoi pas, d'appliquer des lois antitrust ou de casser ce genre de service.
Pour terminer sur la partie Cambridge Analytica, il y a ce week-end dans le Financial Times un long entretien, d'abord un portrait de Mark Zuckerberg assez critique où on dit finalement que ce fondateur de Facebook n'a jamais appris à séparer son idéalisme de son intérêt personnel et l'intérêt de sa société. Et d'autre part, il y a une réponse de la part d'un certain nombre de personnes qui ont travaillé à Cambridge University autour des groupes qui ont proposé ces recherches et ils répondent, au fond, Facebook savait très bien que ces données permettaient du marketing online depuis des années, puisque c'était la manière qu'ils ont de gagner leur argent. Et donc, d'une certaine manière, tout le monde crie aujourd'hui au scandale, alors même que c'est le cœur même du modèle économique de Facebook, Emmanuel Paquette.
Oui, exact. C'était d'ailleurs une des réponses souvent données par Zuckerberg, c'est « on ne vend pas les données de nos utilisateurs ». Là-dessus, il avait raison, mais c'est bien plus pervers que ça, c'est-à-dire qu'il les donne. Et il les donne à des entreprises qui, une fois les avoir analysées, font de la publicité sur Facebook.
Mais
et
elles restent, pour, à leur décharge, elles restent anonymisées, ces données. Donc après, on vous recible en fonction d'un certain nombre d'éléments, mais on ne va pas cibler vous, Emmanuel Paquette, ou vous, Romain Pigenel, nominativement. On cible des profils.
On cible des profils, effectivement. Mais en gros, c'est plus Facebook.
Et en quoi ça pose
donne...
le problème, alors, à ce moment-là, d'utilisation des données privées pour, être, pour jouer un peu l'avocat du diable?
Alors, dans le cas de Cambridge Analytica, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'opt-in, enfin, c'est-à-dire que les utilisateurs n'étaient même pas au courant que leurs données étaient aspirées par cette entreprise tierce.
Parce que vous croyez qu'on est au courant pour toutes les données qu'on aspire?
Alors, généralement, justement, on donne son accord ou pas d'ailleurs lorsqu'on va sur Facebook. Mais sauf que personne ne lit les pages écrites en tout petits caractères avec les petits astérix en bas de page. Effectivement, on ne se rend pas compte qu'on donne beaucoup d'autorisations à Facebook sans le vouloir.
Mais Romain Pigenel, sur cette question, avant de passer à autre chose, le fait que les annonceurs ne ciblent pas des individus mais des cibles marketing, par exemple les auditeurs de France Culture qui ont moins de 35 ans, en quoi ça pose des problèmes de vie privée?
Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel Paquette et qui reprend d'ailleurs la saillie qui était assez drôle et bienvenue d'un des représentants des élus américains qui a interrogé Zuckerberg. C'est au fond le problème de toutes ces contrats qu'on passe tout le temps, qu'on va sur les plateformes, c'est vraiment le paradigme des petits caractères. C'est-à-dire que c'est avant la caricature, justement, quand on signe une police d'assurance à laquelle on ne comprend rien, etc. Et ça, c'est quand même le paradigme de base de tous ces services. C'est-à-dire qu'on passe son temps à s'engager, à signer des polices d'utilisation qu'on ne comprend rien, qu'on ne lit pas, et même pour moi j'avoue, quand j'ai besoin d'un service, on me fait effectivement scroller toutes les pages et je regarde très rapidement, mais parce qu'on n'a pas le temps et on ne comprend pas. Et ça, c'est un vrai problème.
Et parce qu'on veut le service, et si on signe pas, on l'a pas.
Exactement. Et ça pointe un sujet fondamental quand vous posiez qu'est-ce que peuvent faire les hommes politiques contre ces plateformes. D'abord, je ne sais pas s'il faut être contre, il faut en tout cas les réguler. Ça pose un sujet fondamental qui est au fond pourquoi est-ce que pour l'instant il n'y a pas eu de réaction populaire contre ce qui se passe. Moi, ce qui me frappe, c'est que on a effectivement régulièrement des syndromes d'aide Facebook. Alors, on l'a vu à chaque fois quand il y a eu des réseaux alternatifs qui ont été proposés. Les mastodons, les diasporas. Logiquement, si on était dans un choix éclairé et si tout le monde était sur ces arguments apparemment de logique pure, tout le monde aurait dû quitter Facebook. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Alors, il y a différentes raisons, mais je pense que la raison, la première, c'est que...
C'est ce qu'a dit d'ailleurs Zuckerberg. On lui a posé la question, il a dit non, ils ne sont pas partis.
Au fond, je pense que beaucoup de gens ne savent pas réellement ce qu'ils font sur Facebook. On est sur Facebook, c'est une logique circulaire, parce que tout le monde y est, parce qu'il faut y être, premièrement. Deuxièmement, parce que Facebook a sécrété son propre besoin. Facebook a mis dans nos têtes, alors c'est ni un bien ni un mal, qu'il était important tous les jours de voir les photos de ses amis, de liker, etc.
Et puis si on n'est pas sur Facebook, on sera sur Snapchat ou sur Instagram, qui d'ailleurs aussi appartient à Facebook, ou sur WhatsApp, qui appartient aussi à Facebook, et donc au fond, il n'y a pas de solution.
Alors, quand même, d'abord, il n'y a pas tant de plateformes que ça, mais surtout, ce qui est fondamental, c'est que ce qui n'est jamais mis de manière apparente, c'est quelle est la nature du deal. Et de ce point de vue-là, il y a une phrase qu'on répète tous, mais qui, à mon avis, a fait beaucoup de mal, c'est quand on dit si c'est gratuit, c'est vous le produit. Sauf que c'est pas gratuit. Et il y a une chose qui n'est jamais transparente, c'est quel est le deal. Un deal, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'obtiens, qu'est-ce que je donne. Et ça, je vous mets au défi, n'importe qui, de dire finalement quel besoin réel cela remplit pour nous, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on a en échange, comment sommes-nous monétisés. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le débat ne prend pas et n'a pas pris toute son ampleur par rapport aux utilisateurs, et qu'on voit que, à ma connaissance, il n'y a pas de signe de désengagement massif de ces réseaux, parce qu'au fond, la majorité des utilisateurs ne comprennent pas réellement ce qu'ils donnent et ce qu'ils ont en échange.
Peut-être pour terminer, Emmanuel Paquette et Romain Pigenel, ce débat autour de l'impuissance politique face à Facebook, un mot sur l'ELA RGPD, il y a d'autres mots en anglais, qui va s'appliquer bientôt. Emmanuel Paquette, si vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit, peut-être Romain Pigenel, en conclusion, est-ce que ça vous paraît une première tentative pour éventuellement essayer de fournir des moyens pour un peu défendre les consommateurs?
Alors le RGPD, c'est le Règlement Général de Protection des Données. Donc ça a été voté en Europe et ça sera mis en application à partir du 25 mai prochain. Donc l'idée, c'est de demander à des sociétés, à des entreprises, de protéger les données. Alors il y a plusieurs mesures qui leur sont demandées, notamment de nommer un Data Protection Officer, donc un responsable des données dans chaque société. Donc en cas de problème, la puissance publique sait vers qui se retourner. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en cas de fuite massive de données ou d'exploitation qui n'est pas autorisée, il peut y avoir des amendes qui peuvent monter jusqu'à 20 millions d'euros, je crois, ou 3% du chiffre d'affaires. Donc c'est beaucoup plus que par le passé. Et on demande également que tout soit créé avec ce qu'on appelle le Security by Design, c'est-à-dire que par essence même, quand on crée un service ou quand on crée un site web, il soit sécurisé de bout en bout et que les données soient protégées de la manière la plus efficace possible.
Romain Pigenel, d'un mot pour conclure, est-ce que c'est une première étape positive ?
Je dirais que ça a au moins un immense mérite, c'est de faire rappeler à l'Europe elle-même que si elle n'a pas la puissance technologique des autres continents, elle a au moins une puissance réglementaire et normative très forte. Et on n'a jamais autant entendu parler de l'Europe dans tous les médias tech, notamment outre-Atlantique, depuis qu'il y a eu l'annonce du RGPD et ses conséquences possibles pour Facebook.
Donc oui aux GAFA, mais oui à leur régulation également.
Privacy by design. Pardon.
Privacy by design. Merci infiniment Romain Pigenel, ancien conseiller du président François Hollande, cofondateur chez Future.io. Merci Emmanuel Paquette. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment donc à vous deux.